13h-14h, Michel Cardoz, Histoire des Suds, sur Sud Radio.
Décembre 1851, de la Provence à la Gascogne et plus au nord jusque dans le Jura, la Nièvre, le Cher, le Sancerre. Résistance et insurrection face au coup d'État de Louis-Napoléon. Nous le rappelons depuis lundi, René Merle, avec vous, historien spécialiste de cette question. Toutes vos interventions d'ailleurs sur cette période historique et celles d'autres de vos collègues, de chercheurs, sont sur le site 1851.fr, épisode peu connu de l'histoire de notre République, de notre histoire politique. Et justement, après avoir raconté hier l'insurrection, ses formes, la façon dont les possédants, les élites, les partisans du coup d'État la voient, la jugent, la calomnie aussi la transforme. Après avoir vu comment Zola décrit ce cortège qui est à l'orgue, qu'il appelle Flassan, avec une femme qu'on appellera plus tard la Vierge Rouge, avec son drapeau, son manteau, sa cape retournée, parce qu'elle est rouge. On va s'interroger aujourd'hui sur la façon dont les uns et les autres, les conservateurs, les républicains, toutes les sortes de républicains, font de la politique, comme on dit aujourd'hui. Je ne sais pas si l'expression avait cours il y a un siècle et demi. Car nous sommes à, en gros, à un siècle et demi et un peu plus de cet épisode. Comment fait-on de la politique dans cette partie du XIXe siècle ?
On parle. Essentiellement, on parle. Et c'est peut-être la grande différence avec aujourd'hui. Et même si on lit, on parle quand même, puisqu'il y a ceux qui savent lire et qui lisent le journal, le journal départemental, à ceux qui ne savent pas lire.
Il y a beaucoup de journaux départementaux, par exemple dans le Var.
Dans le Var, il y a le journal des Rouges, qui s'appelle le Démocrate du Var, et le journal des Blancs. Et donc, il y a véritablement une presse départementale. On est toujours dans la proximité. Et ces journaux sont lus et commentés à un peuple qui ne les achète pas parce que, déjà, ils sont chers, et parce qu'ils ne le comprendraient certainement pas très bien, parce que leur accès au français n'est pas encore complètement acquis. Donc, cette oralité passe du français de la presse à l'occitan de l'oralité. Donc, la politique, c'est quelque chose qui se fait dans le contact direct.
Alors, qui va assurer... Ça se passe où ?
Ça se passe... dans les endroits où les gens se rassemblent, où les hommes se rassemblent essentiellement.
Essentiellement les hommes.
Les femmes se rassemblent dans d'autres endroits. Elles sont politisées à leur façon, mais à travers leurs hommes aussi.
Alors, où les uns et les autres se réunissent?
Les hommes, bon, les femmes, c'est le lavoir.
Oui.
Bon, les hommes, c'est le café.
Oui.
C'est le cercle. Le cercle étant une dérivante laïque du café, c'est-à-dire l'endroit, ce que dans notre provençal on appelait les chambrades, les chambrées, c'est l'endroit où l'on va le soir, après le travail, se réunir, discuter, boire le coup, jouer aux cartes. Mais les chambrées étaient très marquées politiquement. Il y avait les chambrées rouges et les chambrées blanches.
Alors, vous venez de prononcer le mot chambrée, en provençal, comment ?
Chambrade. Camarade ou chambrade.
Voilà. Alors, je trouve dans un des textes que j'ai trouvé sur le site, 1851.fr, une lettre toujours du même procureur dont je parlais hier, au même juge de paix qu'il devait juger un peu mollasson, et pour le stimuler, le 12 décembre, le stimuler dans l'ordre de la répression, il lui raconte à sa façon les origines, au fond, de l'insurrection. Les chambrées ont été depuis 4 années le foyer le plus actif du socialisme et de la démagogie. C'est là que de perfides instigateurs de désordre, grâce au ciel bien connu et pour la plupart déjà sous la main de la justice, qui leur demandera un compte sévère de cette œuvre de perversité et de ruine, ont lâchement corrompu l'esprit de nos populations rurales, formées de gens simples et ignorants, et nécessairement plus accessibles à toutes les excitations de la cupidité et de l'envie. C'est là, surtout, qu'ont été forgées les armes pour la guerre civile. D'autre part, les cabarets ont été un auxiliaire puissant des chambrées pour la démoralisation des masses. Dans une circulaire du 3 février dernier, je vous disais à ce sujet, l'expérience a démontré que là où se forme dans la classe des ouvriers, des travailleurs surtout, un homme immoral, moral, un débauché. Là se forme un démagogue, un anarchiste. La révolte contre les prescriptions morales et les lois divines engendre la révolte contre la société et les lois humaines, et réciproquement. Ces deux termes sont corrélatifs et inséparables. Je l'entends, là, le procureur, à dire corrélatif.
Ah, c'est bon. Un procureur qui fera d'ailleurs carrière, hein, comme son ami Macan, qui sera un des secrétaires de Morny par la suite, bon. Comme Daudet d'ailleurs, mais oui, bon, ceci est une autre histoire.
Oh ben, on peut le dire, Alphonse, l'auteur des Contes du lundi, et l'auteur du Petit Chose, le charmeur du curé de Cucugnan, est devenu l'homme de plume du Second Empire. Bon,
mais
alors...
c'est chambré... c'était véritablement le lieu où la sociabilité populaire a découvert la politique. Mais, par exemple, l'échoppe du cordonnier, énormément de cordonniers sont arrêtés en 1851. L'échoppe du tailleur, le tailleur recroquevillé en position yoga
sur sa table,
était également le maréchal Ferrand, bien évidemment.
Ce sont des lieux où on se rassemble et où on parle. Voilà. Alors, quelles sont les idées qu'on agite là? Quels sont les héritages?
Alors, il y a deux sortes d'héritages. Il y a l'héritage des luttes locales. On voit très bien comment il faudrait des études, nous avons fait des études localité par localité, comment les clans locaux, les clans qui se disputaient la municipalité, etc., ont pu jouer. Comment un certain nombre de notables se sont rangés du côté blanc ou du côté bleu ou du côté rouge, etc. Mais il y a également le grand souvenir de la Révolution.
On est tout proche encore de la Révolution.
Tout proche, c'est
1851.
Comme pour... Oui, c'est comme pour nous 1968, voilà. dans la durée. Alors pour des jeunes, c'est peut-être loin, mais pour beaucoup d'adultes, la Révolution, c'est ce qui a abattu la féodalité. Pour ces artisans, pour ces paysans, c'est la liberté, c'est la propriété. Et donc,
qui a été redistribué par la Grande Révolution.
Dans la mesure où les Blancs apparaissent comme les héritiers des nobles...
Les Blancs, c'est les royalistes recyclés.
Tout ce qui est conservateur, ce sont les Blancs.
Et les Bleus?
Les Bleus, ce sont les Républicains modérés, qui ont été laminés par cet étau rouge ou blanc.
Voilà.
Voilà. Donc, ce souvenir de la Grande Révolution, on en parle, on en fait parler les vieux, on en discute, et toi, comment as-tu acquis ta terre, et qui a acheté les biens nationaux, etc., et qui était le seigneur du coin, et il y en avait encore en 1851. J'ai encore vu des portes fracassées de châteaux dans la Drôme ou dans le Var, à coups de hache, par les insurgés, la porte du château, par rage, pour montrer que le château, c'était l'ennemi. On n'a pas fait de mal aux propriétaires.
On marque une pause. Histoire des Suds, nous sommes en décembre 1851 dans tous les départements du Midi de la France. L'insurrection, la révolte, la résistance contre le coup d'État de Louis-Napoléon, élu quelques années plus tôt président de la République au suffrage universel masculin, qu'il rétablit d'ailleurs après que la République l'eût rogné et en eût privé les pauvres et ceux qui ne payaient pas d'impôts. Mais qu'il rétablisse le suffrage universel après avoir étranglé les droits de l'Assemblée nationale et violé la Constitution. Alors, nous sommes en train, avec René Merle, notre invité spécialiste de tous ces épisodes et du site qu'il a créé, 1851.fr, nous sommes en train de nous demander comment on faisait de la politique à ce moment-là, dans les années 50 du 19e siècle. Est-ce que le rôle de la presse, vous nous avez raconté que la presse était lue, raconté, commenté dans les chambrées, dans les cabarets, dans les échoppes de cordonniers, de tailleurs, où l'on se rassemble. Faire de la politique, c'est d'abord parler. Mais comment on passe de cette action publique, donnée par le régime républicain, autorisée à la préparation de l'insurrection? Parce que dans ces années-là, quelques-uns se préparent à la résistance armée.
Initialement, non. Initialement, le propos de tous... républicains ou conservateurs, c'est de gagner les esprits afin d'obtenir des députés et d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale.
Oui, mais ça, cette majorité est conservatrice.
Cette majorité est conservatrice et cette majorité est très répressive. Et progressivement, elle va corseter justement la diffusion des journaux départementaux qui sont victimes de brimades constantes, d'amendes, etc., qui peu à peu finissent par disparaître. Alors que reste-t-il? Il reste le rôle de la chanson. Il reste le rôle du colportage, il reste le rôle du tract plus ou moins clandestin. La chanson a un rôle énorme. Elle est métaphorique très souvent. Par exemple, j'ai en tête cette chanson de Victor Baron dans Le Cher que une amie me transmettait récemment qui disait « J'ai deux grands bœufs dans mon étable ». C'est la chanson du chansonnier républicain.
Oui.
un bœuf blanc, un bœuf roux, rouge. Mmh. Ah, le rouge, il est super, mais le blanc, ne m'en parlez pas. Bon, vous voyez, il y a toujours une... Mmh. On s'adresse au peuple d'une façon qui peut apparaître extrêmement simpliste, mais qui touche de façon très concrète la chanson, qu'elle soit française ou qu'elle soit patoise, a un rôle de conscientisation, et celle-là, on ne peut pas l'interdire, on ne peut pas empêcher les gens
de parler
et de chanter.
Mais pourtant, certains passent à la constitution de sociétés secrètes, de clandestines.
Cela commence en 1850, à partir du moment où la répression devient insupportable et où il apparaît évident qu'il y aura un corsetage encore plus sévère à la veille de 1852. Alors que faire ? Et j'en reviens à la question que vous posiez initialement. Comment se fait-il que certains départements se soient insurgés et pas d'autres ? J'ajouterais que des départements qui avaient voté rouge en 1849-50, et massivement, je pense à l'Isère par exemple, ne se sont pas insurgés. Et je crois que la réponse est dans le fait que dans ces départements, les républicains qui étaient légalistes n'ont pas envisagé de passer à une structure de société secrète. Les départements qui se sont insurgés sont ceux où ont été implantés, et là c'est le rôle des individus, le rôle des réseaux, enfin nous connaissons tout cela à travers notre histoire récente. Que faut-il faire ? Bon, faut-il réagir ou pas ? Ces gens-là ont pensé qu'il était nécessaire d'avoir une organisation secrète. En fait, elle n'était pas si secrète que cela, puisque dans les localités, la plupart des hommes en faisaient partie, et puis les mouchards.
Alors, comment elles s'appelaient, ces sociétés secrètes ? Est-ce qu'elles avaient un nom ?
Oui, elles s'appelaient, par exemple, dans l'Allier, enfin, dans les zones républicaines du centre, l'Allier, la Nièvre, le Cher, s'appelaient les Mariannes.
Les Mariannes.
Les Mariannes. C'était la symbolique. Dans notre midi, elle s'appelait tout simplement la montagne.
La montagne.
La jeune montagne et la vieille montagne.
C'était par allusion aux montagnards de 93.
Alors, la vieille montagne, c'était les sages. C'est ceux qui disaient, écoutez les gars, on réagira s'il le faut, on n'est pas des dégonflés, mais si on nous cherche. Et la jeune montagne, comme son nom l'indique, disait aux vieux, écoutez les gars, vous n'êtes pas dans le coup, il faut réagir tout de suite, il faut préparer une insurrection préventive, si l'on peut dire. Or, cette jeune montagne a été démantelée en 1950 par ce qu'on appelait le complot de Lyon, c'est-à-dire un complot de républicains des 13 départements du Grand Sud-Est, de Lyon à l'Hérault, de l'Hérault au Var. Et là, il y a eu un écrémage des cadres républicains.
Ça veut dire que la police politique, qui ne s'appelait pas police politique,
était infiltrée. Tout à fait. Mais cette jeune montagne s'est reconstituée. Et comme les cadres qui étaient dans la sociologie de la politisation, le relais entre la politique au sens noble et le peuple, qui l'ignorait, c'était les couches moyennes, disons, des républicains issus des notaires, des médecins, des pharmaciens, des instituteurs, etc. Ces gens-là ont été, pour la plupart, victimes de la répression. Et les cadres qui sont montés en 1850-51, c'était des jeunes hommes issus directement de la réalité populaire, de jeunes paysans, de jeunes artisans, beaucoup plus combatif encore.
Avant de revenir sur cette composition sociale, au fond, des insurgés, de ceux qui ne le sont pas, du camp républicain dans sa diversité, est-ce que la franc-maçonnerie a joué un rôle ?
La franc-maçonnerie a joué un rôle énorme, parce que dans ces couches de la moyenne bourgeoisie, de la petite bourgeoisie républicaine...
C'est-à-dire des notaires, des pharmaciens, des professeurs...
La plupart de ces gens-là étaient des francs-maçons. Les francs-maçons de l'époque étaient très clairement des humanistes républicains. Et des humanistes activistes, c'est-à-dire qu'ils ne se contentaient pas de parler, mais ils essayaient de convaincre.
On marque une pause. Histoire des Suds, nous sommes en décembre 1851. Réaction vive, républicaine, insurrectionnelle au coup d'État de Louis-Napoléon, essentiellement dans les départements du Midi de la France. Avant de s'interroger d'ailleurs pourquoi seulement dans le Midi et beaucoup moins ailleurs et en tout cas pas grand-chose à Paris en dehors d'une répression très très féroce sur laquelle on reviendra. La composition sociale du camp républicain, comme on dirait avec notre langage d'aujourd'hui, vous nous avez expliqué il y a un instant que les cadres francs-maçons de l'insurrection et de l'opinion républicaine étaient tous des notables, ce qu'on appellerait aujourd'hui des couches moyennes. Bon, le peuple, de qui et de quoi se compose-t-il ?
Ben, le peuple est, comme toujours, très composite, mais grosso modo, le peuple républicain qui s'est retrouvé dans l'insurrection, c'est le peuple des petits propriétaires, c'est-à-dire des paysans, majoritairement des paysans, petits propriétaires menacés par l'usure, menacés dans le maintien de leur propriété par la prégnance de l'usure. Et donc,
c'est-à-dire les intérêts bancaires.
Absolument. Et donc, dans la mesure où le programme républicain rouge était un programme à la fois messianique, la République, la bonne, la sainte, qui va nous sauver, mais en même temps très concret, un crédit agricole permettant d'emprunter à des prix, à des taux raisonnables, permettant de garantir sa propriété, etc. Donc, cette paysannerie, elle avait un double horizon, ce qu'on appellerait le socialisme pratique des années 1900-1920, la coopérative, etc., pour s'en sortir, mais sans nier sa propriété. Et de la même façon, les artisans, les petits boutiquiers, qui par la suite se retrouveront beaucoup plus à droite dans les années de la fin du 19e, étaient des rouges parce que eux aussi étaient menacés dans leur statut et que ils dépendaient de leur clientèle directement paysanne. Donc, ce n'est pas du tout, le terme de rouge ne s'applique pas du tout à une clientèle ouvrière. Les ouvriers de l'époque, il y avait deux catégories d'ouvriers. Les ouvriers de la grande industrie naissante avaient été fracassés en juin 1848, lorsque leur revendication avait été posée de façon très violente, et la réaction était encore plus violente. Les ouvriers qui ont marché dans l'insurrection étaient les ouvriers des petites villes, les ouvriers de toutes petites industries en liaison avec un tout petit patronat qui lui-même, très souvent, était rouge. Donc, il ne faut pas appliquer le terme de classe ouvrière, tel que les marxistes ont pu le définir par la suite, à ce qu'était la réalité ouvrière de l'époque. Donc, le peuple républicain, c'est un peuple rural, ou un peuple de petites villes, et un peuple de petits propriétaires.
Alors, venons-en à cette question. Le Midi s'est révolté, entre Condom, Mirande, dans le Gers, Agen, Nérac, jusque dans le département du Var, et au nord, dans le Cher, dans la Nièvre. Mais, les villes, quid des villes ?
Quid des villes ? Eh bien, déjà dans les villes, la structure, la sociologie des villes est tout à fait différente. Et d'autre part, l'urbanisation et la prolétarisation des villes avaient été marquées par cette répression de juin 1848. Et donc, pour employer de grands mots, le prolétariat lyonnais ou marseillais, a fortiori parisien, en avait pris plein la gueule en juin 1948. Pour eux, la République, c'était la République qui leur avait tiré dessus, quoi.
Avec des centaines et des milliers de morts.
Oui, déportations en Algérie, etc. Donc, ils n'étaient pas tellement enclins à défendre cette République. D'autre part, la bourgeoisie des villes, ça n'était pas une bourgeoisie de petits propriétaires, de petites localités en rapport direct avec ce monde rural. C'était déjà une bourgeoisie tournée, par exemple, à Toulouse ou à Marseille, vers un négoce beaucoup plus important qui les incitait à être conservateurs. Leur républicanisme n'était que superficiel. Et enfin, les villes étaient, si j'ose dire, beaucoup plus christianisées, au sens, non pas de la foi, mais au sens de l'attachement à une église qui était très conservatrice à l'époque. Alors que les campagnes conservaient vis-à-vis de l'église une sorte de paganisme tolérant qui a pu les pousser à bouger, à moins écouter les prêtres.
Est-ce que par là, la déchristianisation, est fille de la grande révolution française, avait été plus efficace dans les campagnes que dans les villes?
Et dans les campagnes du Midi.
Et notamment dans les campagnes du Midi.
Sauf le secteur du sud du Massif central, la Lozère, le Cantal, etc. Mais dans la partie basse, oui, c'est très net. Et d'ailleurs, on retrouve la carte des sociétés populaires montagnardes, jacobines, dans les petites villes, dans les villages de la région, des régions d'Oc. On la retrouve presque exactement en 1851 avec les sociétés secrètes. Donc il y a quand même une tradition de protestation qui n'est pas chromosomiquement occitane, mais qui s'inscrit dans une tradition politique...
Peut-être dans une continuité historique.
De rébellion.
De rébellion et peut-être de différence avec de différence. La France du Nord, en tout cas.
En tout cas, sans pour autant qu'il y ait le moindre autonomisme, il défendait la République française, c'est certain. Certes. Mais, par exemple, ce complot de Lyon qui est brisé en 1850, on le retrouve exactement sur les mêmes 15 départements, de l'Aveyron au Var, du Var au Rhône, à Lyon, ce sont ceux qui créeront la Ligue du Midi, j'avance peut-être un peu, la Ligue du Midi qui disait, voilà, nous ne sommes pas séparatistes, mais la France est en danger, et bien nous, méridionaux, on va s'organiser entre nous pour mieux la sauver. Et Paris fera ce qui... Donc il y avait quand même une distance.
À propos de Paris, ça serait un peu sot et pas juste de passer sous silence, au prétexte que nous parlons de l'histoire des Suds, passer sous silence ce qui s'est passé à Paris au moment du coup d'État. Là, la nouvelle, l'information a été instantanée.
Immédiate.
On sait que Morny a fait coller des affiches partout dans Paris et que des députés, certains en tout cas, comme Victor Hugo, comme Baudin, comme Schœlcher, se sont promenés et ont essayé de soulever le peuple.
À Paris, ce qui s'est passé a été terrible. À savoir qu'il y a eu une provocation gouvernementale froide, à savoir, la foule s'est rassemblée sur les grands boulevards, mais il y avait beaucoup de badauds, il y avait beaucoup de gens qui s'interrogeaient, et on a tiré à la mitraille, on a tué des centaines de personnes. On a terrorisé Paris. Immédiatement.
Tout de suite, dans la nuit, à la matinée du 3.
Immédiatement. Alors imaginez la réaction.
C'est là que se situe la fameuse anecdote de Baudin.
Alors Baudin, c'est quelques heures après, les républicains, les purs et durs républicains, essaient d'insurger la partie populaire, la partie est de Paris. Des barricades s'érigent, mais mollement. Les ouvriers parisiens avaient donc souffert en juin 1848. Ils regardent.
Oui.
Et c'est là que Baudin dit, on se moque de lui, tu veux mourir pour 25 francs, la paix du député. Et c'est là qu'il dit, vous voir comment on meurt pour 25 francs. Et il monte sur la barricade, il se fait tuer.
Voilà. Il n'est pas inutile de rappeler que l'autre leader de cette opposition parlementaire, Schœlcher, était celui qui avait rapporté l'abolition de l'esclavage devant l'Assemblée nationale. On marque une pause. Histoire des Suds, nous sommes en décembre 1851, entre le 2 décembre, date du coup d'État de Louis-Napoléon contre la Constitution, visant à proroger son mandat qui prenait fin, il avait été élu au suffrage universel comme président de la République. Et le 12 décembre, date à laquelle l'insurrection, les révoltes, la résistance est écrasée partout dans les départements du Midi, nous sommes là dans ce récit en compagnie de notre invité René Merle, historien spécialiste de cette période et d'autres choses que je rappellerai tout à l'heure. Sur quel programme tous ces insurgés se rassemblaient-ils ? Est-ce qu'ils avaient un programme strictement républicain légaliste ou bien est-ce qu'ils rêvaient, au fond, à une autre république ?
Stricto sensu, ils se levaient pour défendre la Constitution violée. Mais... étant donné qu'ils étaient hostiles à cette Constitution, étant donné qu'ils estimaient cette République conservatrice négative, qu'ils voulaient la remplacer par une autre République, celle qu'ils appelaient la République démocratique et sociale, il est évident qu'ils avaient aussi un projet d'avenir. Donc ce projet d'avenir, il se retrouve dans le programme démocrate-socialiste, qui était celui... professé dans toutes les élections de 1849-1850, que l'on peut assez facilement résumer. Il était très flou, très vague sur les questions sociales. Donc la République démocratique et sociale, elle était plus démocratique que sociale. Alors démocratique, ça signifiait quoi ? Ça signifiait le rétablissement du suffrage universel masculin.
Masculin, on ne parlait masculin, pas.
Personne,
on ne parlait pas, personne.
À part quelques égéries féministes, n'osait imaginer un suffrage universel total. La pauvre Olympe de Gouges pouvait se retourner dans sa tombe de guillotinée. Il réclamait des droits dont nous jouissons aujourd'hui, la liberté pleine et entière de réunion, de manifestation, d'édition, etc. Et... il réclamait, alors là, on touche à quelque chose de très profond qui s'inscrit vraiment dans des traditions méridionales, qui étaient très fort dans le Midi, beaucoup plus qu'ailleurs, il réclamait la liberté communale. C'est-à-dire que il voyait la France comme une sorte de fédération de républiques, communales, à partir desquelles, pyramidalement, on accéderait à un pouvoir central, mais qui serait l'émanation du peuple local. Par exemple, à l'image des États-Unis, ils réclamaient l'élection locale des juges.
C'est un peu là une résurrection du vieux fédéralisme des années 92 de la Révolution.
Exactement, ils réclamaient l'élection de ce que j'appellerais le shérif, l'élection du commissaire de police.
Du commissaire et du juge de paix.
Ils réclamaient l'interdiction de l'armée permanente, remplacée par la garde nationale communale. Donc il y a là quelque chose qui est extrêmement différent de notre vision actuelle de la République.
Oui.
Mais quelque chose qui va se clore avec les républiques, avec les communes méridionales de 1871, Narbonne, Marseille, etc., ce sera la mort de ce fédéralisme communaliste, mais qui était très fort en 1851. Alors, au plan social, qu'est-ce qu'il réclamait ? Nous en avons dit deux mots tout à l'heure. Il réclamait un statut du crédit qui permette à la paysannerie et à l'artisanat de ne pas être victime.
De garder sa propriété.
Voilà, de garder sa propriété, de ne pas être victime de l'usure, et donc l'institution de ce qu'on appellerait aujourd'hui le crédit agricole.
Coopératif, voilà. Autant
et
possible.
Et enfin, il réclamait, alors c'est d'autant plus savoureux que la plupart du temps, il le réclame en occitan, voulait l'instruction nationale et française. Donc, il réclamait, à juste titre, que tous les citoyens puissent jouir d'une instruction gratuite, obligatoire et laïque, ce qui est advenu bien plus tard, en français. Donc, tous les délires sur l'aspect nationaliste, occitaniste de l'insurrection tombent là, parce que, pour eux, il était évident que le français
était la langue de l'émancipation.
Voilà, ce qui n'impliquait pas pour autant l'abandon de leur langue de tous les jours, qui leur apparaissait immortelle. Mais ils voulaient l'école, qui n'existait que sous sa forme pratiquement ou communale avec quelques régents payés par la musique, ou essentiellement, et surtout la loi Falloux de la Seconde République, religieuse. Donc ils étaient anticléricaux à ce niveau, tout en étant par ailleurs chrétien pour la plupart, et profondément.
Je suis frappé depuis le début de la semaine, on a parlé de quelques héros, surtout de journalistes très critiques, de publicistes, comme on disait à l'époque, très critiques à l'égard de l'insurrection, d'un juge, d'un préfet. On a parlé de cette femme qui se lève et qui brandit son manteau rouge comme étendard en tête d'un cortège. On n'a pas évoqué de grandes figures, de grands leaders. Est-ce qu'une ou plusieurs figures se détachent de cette insurrection ?
On n'en a pas parlé parce que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ces cadres de l'insurrection étaient des cadres tout frais, qui me font un peu penser à ces jeunes résistants sortis brutalement du rang en 1942-43. On n'en a pas parlé parce qu'il n'y a pas eu de leaders nationaux, puisque l'insurrection s'est faite horizontalement, si je puis dire, et qu'il n'y avait pas de contact véritable, vu ce qu'étaient les communications de l'époque entre les départements. On n'en a pas parlé parce qu'il n'y a pas eu de mots d'ordre véritablement nationaux.
Il n'y a pas eu de coordination, comme on dirait aujourd'hui.
Et que les sociétés secrètes savaient ce qu'elles avaient à faire. S'il y a un coup d'État, tu fais ça. Voilà. Donc, ce qui apparaît, ce sont des figures départementales, si je puis dire. Moi, j'ai dans mon panthéon personnel, j'en ai quelques-unes.
Dites.
Par exemple, Camp d'Horas, ce catalan officier de marine à Toulon qui était en poste sur un bateau à Saint-Tropez, qui rallie l'insurrection et qui est en tête de cortège, et que j'ai suivi jusqu'à son exil américain au Kansas, où il devient une figure d'abord combattante de l'armée Yankee contre les sudistes racistes, et ensuite un des leaders des farmers du Kansas, tout en tapant un petit peu sur les Indiens quand même à l'occasion. Bon, Camp d'Horas et bien d'autres.
Mais il n'est pas seul à s'être exilé aux États-Unis.
Il n'est pas seul, il y avait son copain Billard, par exemple, qui venait de l'Allier, qui l'avait après s'être évadé de Cayenne, qui l'avait rejoint là, et qui dont les enfants sont devenus des minotiers millionnaires, et qui vont saluer de génération en génération l'insurrection de l'Allier, etc. etc. Je pourrais en citer encore de très nombreux.
Ce sont des héros locaux que la mémoire nationale n'a pas forcément reconnus. On se retrouve demain.